J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu, tout d'abord en 2 Corinthiens, chapitre 11. Me réjouissant de ce qu'une fois de plus, on puisse être ensemble en cette journée-ci, avec aussi plusieurs personnes qui viennent pour la première fois, pour continuer le sujet de l'Assemblée de Dieu et du rassemblement des chrétiens autour du Seigneur. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 11. Et le verset 2, où l'apôtre Paul dit « Je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari, pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » Et l'épître aux Éphésiens, le chapitre 5. Lisons le verset 22 et suivant. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée, lui, le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache ni ride ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit comme aussi le Christ l'assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'assemblée. Jusque-là, la parole de Dieu. Au bout de cette journée, par les PowerPoint, on va avoir des références à beaucoup de versets bibliques sans pouvoir fouiller à travers la Bible à tout moment. Vous pourrez les noter et méditer à la maison, comme c'est prévu même pour toutes ces études ces jours-ci. Mais j'aimerais quand même commencer la journée d'aujourd'hui en rappelant la relation d'amour qu'il y a entre Christ et l'Assemblée. Il est dit que les maris aiment leur propre femme comme Christ a aimé l'Assemblée, l'Église, c'est-à-dire cette compagnie unique et unie qui est formée par tous les rachetés. Et nous ne devrions jamais oublier que ce qui a été à la base de ce qu'aujourd'hui il y a une Assemblée, une seule Église de Dieu sur la terre, invisible à nos yeux, mais pas aux yeux du Seigneur, c'est qu'il l'a aimé. Il a vu quelque chose, on l'a lu samedi, en Matthieu 13. Il a vu un trésor caché et il s'en est allé et a acheté le champ d'abord. Et ensuite, il s'est procuré la perle de très grand prix. Et nous avons vu comment il se l'est procuré. Ce n'est pas en donnant de l'argent, c'est en donnant sa vie, en entrant dans la mort après les souffrances qu'il a subies sur la croix. Et nous ne saurons jamais mesurer l'intensité des souffrances du Seigneur. Et si nous nous rappelons un instant les souffrances sur la croix, quand il est entré dans les 3 heures de ténèbres, sous la colère de Dieu, quand la fureur de Dieu s'est apesantie sur lui, nous comprenons qu'il devait avoir quelque chose de très pertinent devant les yeux, autrement il ne se serait pas donné à un si grand prix, au prix de sa propre vie. dont le sang nous parle. Alors, si on se pose la question, mais quel est le prix, quelle est la valeur que l'Église, l'Assemblée a pour le cœur du Seigneur Jésus? Allons au calvaire et nous découvrons cette valeur. Et si maintenant le sujet de l'Assemblée est devant nos yeux de nouveau, cette troisième journée, nous devons d'abord nous poser la question, est-ce que le Seigneur me vaut tout? Est-ce que son amour me vaut tout? Est-ce que lui-même, il a la priorité dans ma vie? Tient-il, lui, en toutes choses, Colossiens 1, la première place dans ma vie de chaque jour? Il est très facile d'avoir une conviction sur les principes du rassemblement qui est tout à fait correcte, sans être impressionné par la grandeur du Seigneur, sans vivre dans sa proximité. Et ça devient alors une théorie dont on est convaincu, pour laquelle même on est prêt de combattre d'autres croyants, et pourtant sans valeur. En fait, c'est le danger que déjà l'Assemblée à Éphèse avait en Apocalypse 2, ayant abandonné le premier amour. Et à la fin, en Laodicée, le Seigneur Jésus dit, pour eux, disons collectivement, je vais te vomir de ma bouche. Parce que si on était froid, il pourrait encore travailler pour qu'on devienne chaud. Si on était chaud, ce serait déjà en ordre. Mais le problème, c'est que si on est à cette température tiède, on est content de soi-même et on ne se rend plus compte qu'on est dans le cœur loin du Seigneur. Et ça, je ne dis pas pour les assemblées, je le dis pour moi-même. Nous ne pourrons jamais dire que les assemblées comme ça. Mais je peux constater pour moi-même que je me suis éloigné de la communion avec le Seigneur. Et je voudrais répéter, sans cette vie quotidienne, dans la communion avec le Seigneur, même les meilleurs principes, qu'il s'agisse sur la vie conjugale, familiale, vie d'assemblée, mentalité de travail, et toutes sortes de choses, ça devient un automatisme machinal. Je ne crois pas que cela a quelque valeur particulière devant le cœur du Seigneur. Dans les proverbes, prophétiquement, disons, il dit, « Mon fils, donne-moi, pas tes convictions, pas ta tête, tes raisonnements, donne-moi ton cœur. Le reste s'en suivra. Mais si le cœur n'est pas au bon endroit, le reste n'a pas de valeur. » Et c'est pour cela que j'aimerais placer en ce début de cette journée d'étude, encore une fois, cet amour immense du Fils de Dieu devant nos yeux. Et nous pouvons dire, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'espère que chacun ici présent peut le dire. Mais ensuite, nous pouvons aussi dire, pour nous qui sommes ici présents, qui nous a aimés, Éphésiens 5, 2, et qui s'est livré lui-même pour nous. Mais est-ce que nous comprenons que par amour, il s'est livré pour son assemblée? C'est ce qu'on vient de lire en Éphésiens 5, 25. Si nous comprenons, si je comprends combien ça lui a coûté de se donner en sacrifice pour me sauver, pour que je lui appartienne, je comprends que je ne peux pas être indifférent à ses appels d'amour, à ses exigences, à ses encouragements, 7 jours par semaine. Il en est de même pour nos foyers et il en est de même pour nos vies d'assemblée. Nous limitons cela souvent aux réunions, mais je répète ce qu'on a vu, je crois, samedi. La vie d'assemblée est une vie 7 jours par semaine, même si on ne se voit pas 7 jours par semaine. On devrait se porter à cœur 7 jours par semaine, prier les uns pour les autres, visiter les uns, appeler les autres, envoyer peut-être un WhatsApp à l'un ou l'autre qui est découragé, ainsi de suite. Il y a de multiples possibilités pour vivre une vie d'assemblée 7 jours par semaine, malgré le programme danse. J'aimerais aussi sortir un peu du sujet en disant ce que nous trouvons en Éphésiens 5. C'est aussi très pratique. si nous sommes convaincus que le mariage, et par ailleurs même les fiançailles, comme on a lu en 2 Corinthiens 11, sont une image, une illustration et une présentation et représentation sur cette terre de ce lien, de cette relation intime et si élevée entre Christ et l'Église, j'aimerais quand même poser cette question. Je sais qu'il y en a qui ont été appelés à rester seuls par le Seigneur. Je ne m'adresse pas à vous si c'est le cas. Mais j'aimerais poser la question, parce que ça m'a déjà frappé ailleurs, en France aussi, que je vois tant de frères et sœurs qui ont déjà un certain âge et qui semblent penser que plus qu'on attend, je m'adresse particulièrement aux frères, plus beau que ce sera. Je dis tout simplement, plus qu'on attend, plus court que ce sera. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression, et je voudrais que peut-être l'un de vos jeunes frères puisse lire dans la version française, Proverbe 5, verset 18. Parce que parfois je me pose la question si vous avez rendu ça correctement en français. Il y a un jeune frère qui ose lire ce verset. Je ne veux pas définir ce que c'est que jeune, on va en venir tout à l'heure. Merci.
Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse.
Ah bon, ça me rassure. Parce que j'avais parfois la crainte que ça dise en français « Réjouis-toi de la femme de ta vieillesse ». Or, sans vouloir parler de ce que c'est que vieux ou jeune, je dirais tout simplement que ne tourne pas en rond pendant des années. Prends ta responsabilité en dépendance du Seigneur. Ne demande pas n'importe qui, mais demande si le Seigneur le sait. Nous avons quelques frères, même aux Pays-Bas, ça figure, mais c'est un peu plus rare, je crois, qu'en France. Et que parfois, on a besoin de les encourager. Écoute, le mariage est aussi quelque chose qui te protège et t'aide. Et peut-être nous vivons dans des temps où tu ne vois plus du tout Éphésiens 5 réalisé. Ce qu'on voit dans le monde, ce n'est même plus le mariage, c'est le concubinage. Et s'il y en a qui se marient, ils se divorcent. Et parmi les enfants de Dieu, de plus en plus, aussi aux Pays-Bas, et dans beaucoup de milieux, tu entends de plus en plus parler de divorce. Ou bien, officiellement, à la mairie, on n'est pas encore divorcé, mais on ne vit plus ensemble, ainsi de suite. Et peut-être ça peut te décourager et te dire que, mais dans ce cas, si c'est tellement difficile, même les disciples l'ont dit, mieux vaut rester seul, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Et écoute, généralement parlant, les sœurs ont une tâche beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas particulièrement aux sœurs de prendre l'initiative. Mais vous pouvez rendre la tâche excessivement difficile si vous tournez en rond et ne devenez pas masculin, comme la parole de Dieu dit. Soyez homme, littéralement ça dit, soyez mâle, masculin, et ça ne parle pas du côté biologique, mais du côté responsabilité, soyez fort. C'est-à-dire savoir prendre le devant, prendre les initiatives. Qu'est-ce qui arrive entre-temps? Les jeunes frères se découragent, les jeunes sœurs se découragent. Les uns tombent dans l'erreur alors de commencer une amitié avec une collègue de travail et l'autre s'en va dans le monde, ainsi de suite. Or, vous pourriez vous être une aide mutuelle. J'aime quand même dire que la relation entre Christ et l'Assemblée est aussi un exemple à suivre, sauf si tu as un autre appel. Je dirais, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Et en plus, je ne vais pas te dire que le mariage, c'est la romantique seulement, c'est les roses, ainsi de suite. Bien sûr que j'avais cette idée, mais elle a été abattue au bout du temps, elle a été détruite par la rude réalité de ce que j'ai constaté selon la parole même qui a dit à Adam qu'il a besoin d'une aide qui lui corresponde. Moi, j'avais besoin d'une aide qui me corresponde, qui sache exactement là où je suis défaillant et qui place parfois même un mur sur mon chemin pour que je me cogne la tête et que je me réalise que ça ne va pas. Tu as aussi besoin de correction, de contrepoids, d'équilibre, d'aide dans tous les sens. Alors, vous voyez que ce sujet même de l'Assemblée et de Christ est un sujet très pratique et j'aimerais vous encourager là-dedans. Si tu n'as pas de conviction, ne te lance pas. Mais si tu as la conviction, ne tourne pas en rond. Je veux juste vous donner un exemple. Je l'ai, je crois, l'année passée, aussi donné au séminaire à Privas sur, justement, entre autres, le mariage. Mais de toute façon, aux Pays-Bas, ça fait 30 ans, 40 ans, il y avait un jeune homme dont tout le monde savait qu'il était tombé amoureux quoi, d'une jeune sœur. Bon, plus tellement jeune, je veux dire, ce n'était pas 16 ans, 18 ans. De toute façon, et il tournait en rond pendant des années. Un jour, à une conférence, donc, je ne sais pas quelle était la portion, peut-être Éphésiens 5, de toute façon, les frères ont parlé du mariage. Entre les réunions, pendant la pause, tout un groupe de jeunes, bon, dans leur vingtaine, trentaine, se tiennent ensemble, disent que c'est un beau sujet. Frères et sœurs étaient là. Et alors, le frère, au lieu de tout simplement dire à la sœur que j'aimerais te poser une question, venons un peu à l'écart, non, il continue à tourner en rond. Et donc, il dit que c'est très beau comment le Seigneur s'adresse à chacun de nous, blabla. Parce que c'est toujours beau, mais c'est du blabla quand tu voudrais dire autre chose et tu tournes déjà depuis des années en rond. Donc, maintenant, à un moment donné, il dit, mais ce qui est très difficile, c'est de d'abord savoir, et la sœur était présente, hein, la sœur en question, donc c'est de savoir, mais c'est qui. Et si même on sait que c'est elle, alors c'est très difficile de s'approcher d'elle. Ce qu'elle avait déjà constaté aussi depuis plusieurs années, qu'il avait de la difficulté avec. Donc, à un moment donné, elle dit tout simplement, pour moi, ce n'est pas très difficile. Et le frère dit, ah bon, hein? Ah bon, c'est vrai? Elle dit, oui. Pour moi, il y a un verset dans la parole qui me parle beaucoup. Et alors, il dit, mais c'est quel verset? Bon, j'ai oublié la référence, mais elle a donné le verset. Et c'était lorsque David avait péché contre Bathsheba, et plus tard, le prophète vient et parle de l'histoire de ce que quelqu'un était pauvre, avait une seule brebis, et l'homme riche prend alors cette brebis pour nourrir avec cette brebis ses invités qui sont venus. Et alors, il y a le verset frappant quand David réagit en colère contre cet homme-là, et le prophète dit, « Tu es cet homme. » Alors, la sœur a donné ce verset à ce frère. Le frère, ignorant quel était le verset, a couru vers sa chambre, a lu le verset, a dit, mais tiens, elle pense que c'est moi. Et puis, il revient pour dire, c'est sérieux? Elle dit, oui, c'est sérieux. Bon, allons-y. Il a dit, mais il a fallu 5 ans pour ce frère être du courage. Je dis que, est-ce que ça c'est mal? Est-ce que ça c'est masculin? C'est responsable? Non. Alors, il y a un cantique dans votre recueil, ami, prenons courage. Et je dirais ça aussi à toi. C'est une bonne relation où on peut refléter les gloires du Seigneur et l'amour. C'est difficile. Il faut se soumettre l'un à l'autre, pas seulement la femme à l'homme. Mais le verset 21 dit, « Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Mais il y a la bénédiction si nous sommes dans le sentier que Dieu, que le Seigneur nous a montré. Et nous pouvons alors refléter dans ce monde, non seulement en assemblée, mais dans la vie du couple, quelque peu la relation entre Christ et l'assemblée. Et c'est aussi une joie qui n'est pas exclusivement réservée pour les jours de ta vieillesse. J'aimerais t'encourager là-dedans. Maintenant, si on avance, j'aimerais, surtout que plusieurs étaient absents hier, brièvement reprendre ou faire un condensé de ce qu'on a vu hier en ce qui concerne la vie d'assemblée. Et on avait vu que dans la parole de Dieu, il y a la compagnie des croyants est décrite de diverses façons. Par exemple, comme étant le peuple de Dieu. Par exemple, comme étant aussi le royaume, où par ailleurs il y a aussi des incrédules dedans qui se soumettent. Il y a aussi la famille de Dieu. Un seul Père, et nous tous, on est frères et sœurs en Christ. Il y a aussi l'assemblée. Beaucoup d'amalgames résultent résulte du fait si on ne fait pas la part des choses. On a vu par exemple hier qu'il y a des dénominations, au moins protestantes, aux Pays-Bas qui disent que sur la base que Dieu, en ce qui concerne le royaume, en Matthieu 13, a dit qu'à la fin des temps, il va envoyer les anges pour faire le tri entre les bons et les mauvais poissons. Donc, on ne peut pas juger le mal en assemblée parce que Dieu même s'en occupe. Ou bien avec l'ivraie et le froment, lui-même s'en occupe. Ah oui, mais ça ne parle pas de l'assemblée. Pour l'assemblée, autre chose est valable que pour le royaume. Donc pour l'assemblée, il est dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Et il n'est pas dit que je vais m'en occuper à la fin des jours par mes anges. Non, c'est l'assemblée locale qui s'en occupe et elle agit en vue de la totalité, c'est-à-dire de l'assemblée de Dieu universelle, en vue de la seule et unique table du Seigneur. Et donc, nous voyons que nous ne pouvons pas faire un mélange. Il y a beaucoup d'amalgame qui est fait entre l'assemblée et la famille de Dieu. C'est aussi deux choses distinctes. La compagnie peut être identique, mais les vérités sont très différentes. Tout croyant en Christ appartient à l'assemblée. Tout croyant en Christ est un enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il y a deux choses. C'est le Père qui peut châtier lorsqu'il en a, en ressent qu'il y en a besoin, pour l'un ou l'autre enfant. Et si moi je vois que mon frère marche dans les ténèbres, je l'avertis, s'il ne revient pas, je prends distance. Où que ce soit, c'est-à-dire dans quelle dénomination que ce soit que ce frère se trouve. Par contre, pour l'assemblée, on ne lit jamais du père lié à l'assemblée. On lit de la tête, du chef qui gouverne et qui a donné les principes que nous devons respecter. Et nous sommes obligés, pas individuellement seulement, mais collectivement, à respecter cet enseignement qu'il a donné à son assemblée. Et on avait vu que la Sainte Cène n'est pas un repas dans le royaume ou dans la famille de Dieu, ce n'est pas un agapé, mais c'est un repas en assemblée. Et on a vu la conséquence automatique, c'est que les principes bibliques pour l'assemblée s'appliquent aussi à ce repas et à la participation à ce repas. Nous avons vu l'assemblée comme l'épouse, l'amour, mais la soumission aussi règne. Nous avons vu l'assemblée comme la maison de Dieu. La sainteté, l'ordre divin, la paix règnent. L'harmonie et l'unité sont la conséquence de ce que l'assemblée est aussi le corps de Christ. Et tous ces principes doivent être reflétés lorsqu'on est réunis en assemblée. Pas seulement le dimanche matin pour la fraction du pain, mais lorsqu'on est réunis en assemblée pour toutes sortes de réunions dont on va encore un peu voir quelques éléments aujourd'hui. Et on avait vu les critères de participation selon la parole, c'est d'être un enfant de Dieu, vraiment quelqu'un de né de nouveau. Je ne peux plus reprendre tout ça, mais je veux juste montrer vivre comme un tel. Il ne suffit pas de dire « je suis un enfant de Dieu », il faut aussi vivre comme un tel. Et un enfant de Dieu n'est pas parfait. Nous tous, dit l'apôtre, nous faillissons tous à beaucoup d'égards. Mais si nous péchons, nous devons confesser et laisser. Mais si nous ne le faisons pas, et nous continuons là-dedans, peut-être pour un temps, ce ne sera pas vu par les gens autour de nous, mais à un moment donné, même eux, ils vont se rendre compte. Vivre dans le mal, dans le péché, c'est impossible pour un enfant de Dieu. Et surtout si on veut rompre le pain. Mais ne dis pas, je ne romps pas encore le pain, donc je suis libre de vivre dans le péché. Ce n'est pas ça. Je connais des gens qui ont, des jeunes qui ont dit que, pour moi, je préfère ne pas encore prendre ma place, mais dès que je prends ma place, ça devient très sérieux. Mais qui t'a appris ça? Si tu as 16 ans, 18 ans, et tu es converti, tu as l'obligation, comme moi, et comme ton grand-père, de vivre dans la consécration au Seigneur. Il n'y a aucun enfant de Dieu, aucun racheté qui peut dire que je suis libre là-dedans parce que de toute façon, je ne participe pas encore. C'est un langage très léger. En fait, ce que tu vois ici tout à l'heure comme quatre critères, ce serait normal que chaque croyant vive comme ça. Tu ne peux pas dire que comme je ne prends pas encore ma place à la table du Seigneur, bon, je maintiens certaines fausses doctrines. Parce que je suis libre de ça, tu ne l'es pas. C'est le troisième point, maintenir la doctrine du Christ comme 2 Jean nous le dit. Concernant Dieu, la Bible, la personne et l'œuvre de Christ, ça va assez loin. Rappelons-nous, l'Épître aux Galates parle du levain. C'est quel levain? C'est le mélange entre la loi et la grâce. Et c'est considéré par la parole de Dieu comme un levain. Un croyant qui se place délibérément sous la loi. Malheureusement, c'est la vaste majorité dans le christianisme qui le font, dans la chrétienté, pardon, qui le font. Alors, il pervertit l'évangile, peut-être inconsciemment. Mais c'est très largement répandu, et non seulement dans les grandes églises protestantes et catholiques et orthodoxes, mais dans beaucoup de milieux dits évangéliques, c'est surtout ces dernières décennies beaucoup plus accentué. Rappelons-nous aussi, par exemple, les doctrines qui s'attaquent au fondement de la foi chrétienne, telles par exemple nier que le croyant est de nature. Nous avions chez nous sur place une communauté qui disait annoncer l'évangile, mais quand tu les écoutais, voire lisais ce qu'ils lisaient, ils disaient que dès le moment que quelqu'un a cru, il a la nouvelle vie, il ne peut plus pécher. Se fonde sur 1 Jean. La conséquence était grave. À un moment donné, leur pasteur a renvoyé sa femme, a pris une autre, mais comme il ne pouvait pas pécher, ce n'était évidemment pas de péché. C'était Bon, ceux qui l'ont accusé assez fortement ont dit que c'était une petite erreur, parce qu'il ne pouvait plus pécher. Regarde, et là tu dis, mais peut-être, mais ça va très loin. Mais rappelons-nous que dans les années 90, ça a aussi eu lieu parmi nous, que les uns et les autres ont dit que le croyant n'a plus de nature. Ce n'est pas si loin qu'on doive regarder, je ne sais pas, des kilomètres de chez nous. Nous sommes tous vite inclinés à dévier de la parole de Dieu. Restons près de cette parole. Ce n'est pas à la légère qu'on peut penser différemment sur ces fondements de la foi chrétienne. On a vu d'autres points. Je prends l'exemple, moi je ne veux pas de télé, si vous en avez, ça n'empêche pas qu'on rompe le pain ensemble. Juste un exemple, si vous préférez porter la cravate alors que j'ai une haine déclarée pour les cravates, malheureusement, j'en ai. Hein. Je l'avais même dans ma valise hier, mais je me suis dit, mais pourquoi m'étrangler? Je crois que les frères vont me supporter sans cravate et je l'ai laissé dans la valise. Mais il y en a qui sont pour eux-mêmes absolument sûrs que au culte, il faut la cravate. Bon, c'est comme ça. Je me rappelle un jour, juste une histoire, hein, j'étais quelque part habillé à la façon hollandaise, légère, donc avec une jolie chemise, c'était tout. Donc, je me rends quelque part à l'étranger, je ne vais pas dire le pays. De toute façon, je suis chez des amis et on se rend à la réunion d'édification. Et le frère me regarde et il dit, écoute, tu prends mon colbert. J'ai dit que pourquoi? J'ai très vite chaud. Il dit, mais il se pourrait que le Seigneur t'utilise pour la parole. J'ai dit, mais tu sais ce qui est heureux, c'est qu'il m'a déjà utilisé, sans colbert même. Il me regarde, oui, mais ici quand même, on aime ça. Alors, bon, je dis que par amour pour toi, alors je mets ça. Mais si ça me dépasse, je l'enlève. Hein. Bon, de toute façon, alors on est prêt. Je le vois à la porte, sans colbert. J'ai dit, mais tiens, ça dépasse tout. Alors, il a quelques années de plus que moi. Moi, j'avais peut-être 45 ans et lui, 50 ans. Et je lui pose alors la question, mais comment est-ce que tu oses alors partir à la réunion sans Colbert? Je lui ai dit, tu es déjà sûr que le Seigneur ne va pas t'utiliser? Il dit, alors ce qui est là, c'est que jusque-là, le Seigneur ne m'a pas encore utilisé. Moi, j'ai dit, ça c'est très grave. Comme il m'a déjà utilisé, je préfère te donner ton Colbert pour que tu sois exercé aujourd'hui. Bon, voilà. Je dis juste, c'est aller un peu loin. Mais chacun de nous peut avoir des appréciations dans ces domaines, mais on ne peut les imposer aux autres. Je ne dis pas qu'on doit venir en habit sportif à la réunion. Je dis juste, nous sommes un peu différents les uns des autres. Donc, mais pas sur les principes, c'est-à-dire de la foi chrétienne même. Là, on ne peut pas avoir des opinions différentes. Il y a un quatrième critère qui est souvent oublié, c'est se retirer de l'iniquité. C'est ce qui n'est pas selon les pensées de Dieu. On a vu l'iniquité, l'injustice, c'est ce qui est maladroit, ce qui n'est pas droit selon les pensées de Dieu. Donc, ce qui est encourageant là-dedans, c'est, si tu lis bien en 2 Timothée 2, ça ne dit pas que celui qui participe se soit déjà depuis 2 ans retiré de l'iniquité. Mais que celui, je crois qu'on peut le rendre ainsi, la conséquence de ce passage, c'est celui qui participe, qu'il se retire de l'iniquité. Et je crois que c'est comme ça que les frères l'ont aussi pratiqué dans le passé. Ils n'ont pas demandé si depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, on soit retiré, mais qu'on ait à cœur de le faire. Et si on le fait, on continue à remplir les conditions. Si on dit d'abord, je vais le faire, et on ne le fait pas, peut-être on perd. On ne remplit plus les critères. Je crois que là-dedans, il y a quelque chose, une grâce qu'on peut aussi user envers ceux qui jusque-là étaient ignorants, par exemple, sur la vérité de l'Assemblée, et qui viennent le dimanche, qui voient une fois la fraction du pain, et qui disent, mais désormais, je voudrais aussi. On ne peut pas dire que parce que là où vous étiez lié à de l'iniquité, ça doit encore durer 2 ans avant que vous ne pouviez prendre place. Là, ce serait aller très loin. Mais je crois aussi quitter la base de la parole. Mais si quelqu'un dit d'avance, mais je resterai lié, mais juste pour 1 ou 2 dimanches, je veux être avec vous, là, ça devient aussi délicat. Je ne veux pas sortir ici des prescriptions, je veux juste dire, soyons sensibles, soyons exercés. Et ce que je voudrais surtout, c'est que ce que je viens de dire et ce que j'ai dit hier, soit un encouragement pour vous entretenir ensemble et chercher le chemin de la parole ensemble et ne pas chercher la discussion et les débats qui ont déjà fait énormément de dégâts parce que peut-être l'un est plus vite prêt à, disons, à ce que quelqu'un soit admis qu'un autre. Nous nous sommes donnés les uns aux autres pour nous compléter, pas pour nous combattre. Je veux rapidement aller à travers ces points qu'on a déjà vus hier en partie. Comment l'Assemblée peut-elle te permettre? Jamais sous la recommandation de toi-même. Le fait que quelqu'un se présente et dise que moi je suis un croyant et je ne vis pas dans le péché n'est pas de garantie. Normalement, ce serait bon de vérifier. Je me rappelle un cas, 2 hommes dans une église réformée aux Pays-Bas où on était très pieux à l'époque. Un dimanche, viennent à l'Assemblée. Eh bien, ils demandent leur place. Les frères, dans les semaines après, ont un entretien avec eux. Mais un frère dit aussi, mais allons vérifier d'abord pourquoi est-ce qu'ils sont venus de cette dénomination. Il s'est alors avéré qu'ils se sont querellés avec les anciens, qui étaient eux aussi croyants. Alors, les frères ont dit à ces deux, écoutez, nous, dans le principe, on serait libre de vous recevoir. Mais vous devez d'abord résoudre le problème que vous avez causé là-bas. Le résultat a été que les frères de l'Assemblée ont aidé à résoudre une division dans cette église. Parce qu'ils ont renvoyé ces frères pour qu'ils se réconcilient d'abord entre eux. On ne peut pas dire que, comme c'est une dénomination, ça ne nous regarde pas. On doit quand même être correct dans son comportement, même envers de tels. Et si quelqu'un vient d'un milieu, disons, baptiste, si on connaît l'un ou l'autre frère dans cette dénomination baptiste, rien ne gêne à ce qu'on s'informe. Est-ce que vous pouvez donner un bon témoignage sur la personne. De façon discrète, on peut s'informer sans soumettre une demande officielle, mais il y a des enfants de Dieu là qui peuvent recommander ou déconseiller, qui peuvent peut-être dire, mais depuis 5 ans, il était chez nous, il n'a fait que les querelles. Et là, nous devons être clairs avec un tel écoute, tu pourrais prendre la place à la table du Seigneur, mais ça, tu dois d'abord résoudre. Donc, jamais sous la recommandation de toi exclusivement, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute chose soit établie. Même dans les cas positifs. En général, l'assemblée déléguera 2 ou 3 frères mûrs qui aimeraient te parler, surtout t'entendre, puis qui rapportent cela à l'assemblée, pour qu'elle en entier, qui seule est habilitée de prendre ses décisions, puisse prendre la décision de vouloir exprimer la communion avec toi et toi avec eux. C'est toujours réciproque. Il y a pas mal de jeunes, j'étais parmi eux dans le passé, qui ont vu un énorme obstacle. Les montagnes, presque comme les Pyrénées devant moi, quand je pensais à devoir parler avec 2 ou 3 frères. Alors je dois dire que jusqu'à ce moment-là, cet entretien, c'était le meilleur entretien que j'ai jamais eu. C'était un entretien fraternel où on a goûté le cœur l'un de l'autre et c'était un bon entretien. Et je dirais, ne te fais pas trop de soucis. C'est les mêmes frères et sœurs avec lesquels tu te réunis normalement. C'est ces frères-là avec qui tu vas parler. Alors, ils ne deviennent pas subitement, je ne sais pas, des juges durs qui vont t'abattre, prêts à chercher la moindre défaillance pour montrer cela. C'est un entretien où on se parle pour se rassurer mutuellement que vraiment, on a la liberté d'aller ensemble. En principe, c'est un entretien qui devrait être de la joie. Si par contre, tu sais que quelque chose dans ta vie ne va pas, c'est pour cela que tu as peur d'un entretien avec les frères, eh bien, résous ça avant cet entretien. Comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est très simple. Car c'est une chose collective, réciproque, mutuelle, de vouloir ainsi marcher ensemble et communier ensemble, ayant le même but et un seul et même centre, Jésus-Christ. Ce n'est donc pas un tribunal, un pareil entretien. Et j'aimerais aussi dire aux frères qui parleront avec un jeune et souvent encore plus, ce qui est plus grave, avec une jeune qui peut-être tremble devant cette idée très sérieuse de parler avec 2-3 frères. Alors soyez suffisamment réaliste, simple. N'entrez pas dans la pièce avec le visage morne et très sérieux, mais tout simplement comme frère. Ça va beaucoup aider. Quand tu es admis, tu prends ta pleine part dans les bénédictions. Étant jeune, tu n'es pas moins béni que les vieux. Mais aussi ta pleine part dans la responsabilité. Ce n'est pas seulement une joie, c'est aussi et un privilège, c'est aussi une responsabilité partagée. Étant jeune, tu n'es pas appelé à te soustraire à tes responsabilités. Évidemment, comme jeune frère de 18 ans, comme jeune sœur de 17 ans, tu n'as pas les mêmes responsabilités pratiques pour veiller au bien du troupeau qu'un frère âgé ne peut les avoir. Mais tu as ta part de responsabilité. Surtout et d'abord de veiller à ce que toi-même tu es et tu restes dans l'état convenable. Cette responsabilité inclut le fait que tu ne peux pas faire le shopping le dimanche. Peut-être que je serai un peu direct, mais je veux quand même l'être. Dans la vie quotidienne, tu peux choisir où tu dînes. Aujourd'hui, chez toi, demain, chez ta tante, et après-demain, au restaurant, au coin. Mais dans l'Assemblée de Dieu, je crois que ce n'est pas le rythme où tu choisis selon ton bon goût. Si tu as compris ce que le Seigneur a dit expressément sur son assemblée, sur le rassemblement des rachetés, sur l'unique table du Seigneur, sur la sainteté, sur l'unité à exprimer, ainsi de suite, tu ne peux pas de bonne conscience faire du shopping entre divers groupes, diverses dénominations, même si c'est des groupes avec rien que des croyants, même si c'est des groupes avec rien que des croyants que nous connaissons et que nous aimons, avec lesquels on a été ensemble peut-être. Pour être très clair, ce n'est pas réaliste d'être aujourd'hui à Bordeaux-Lac, demain chez les 11, et après-demain à La Rochelle, Bordeaux, Centre Pau, je ne sais pas où. Et la semaine après, tu pars avec ta copine à la communauté évangélique au village. Si tu as compris, pas une condamnation sur des dénominations et des divers groupes, mais si tu as compris ce que la parole de Dieu dit sur l'unique lieu du rassemblement, avec ses principes bibliques, cette façon de faire du shopping ne me semble pas sérieux. Et en plus, ça ne me semble pas seulement non pas sérieux devant le Seigneur, mais non plus envers les croyants. J'ai des amis dans ce que vous appelez les 11, j'ai des amis dans ce que vous appelez les frères larges, et j'entretiens des contacts avec eux, certains contacts avec les uns plus profonds qu'avec les autres. Mais je les avertis aussi qu'ils ont quitté ce que la parole de Dieu montre être la seule table du Seigneur, les principes du rassemblement. Si maintenant je me joins à eux, je me rends hypocrite. Au moins, c'est mon appréciation. Je te laisse devant le Seigneur. Je crois que si nous devons être conséquents, ce n'est pas seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actes. Mais je te le donne comme point à réfléchir. Nous devons toujours nous rappeler ceci. Ce n'est pas seulement quand les croyants sont réunis au nom du Seigneur, selon la parole, que le Seigneur bénit là. Je connais un pasteur réformé aux Pays-Bas, parce qu'il y en a beaucoup, comme autrefois il y en avait beaucoup en Ardèche et tout ça, qui a dit qu'il ne prêche jamais, donc il ne donne jamais un sermon, sans avoir au moins 40 fois lu, en tout calme, rien que la portion de la parole sur laquelle il va parler. Pas 40 fois médité, mais d'abord 40 fois lu. Ensuite, il commence à méditer, ensuite seulement il prépare le sermon. Je dis que ça, c'est du sérieux. Et je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs et évangélistes, ainsi de suite, qui sont utilisés par le Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous approuvons l'idée d'un pasteur établi, mais le Seigneur est libre de bénir ce qu'il dit. Et il l'a maintes fois fait. Merci à lui. C'est même Paul qui le dit dans l'Épître aux Philippiens. Quelle que soit la manière que l'Évangile est prêché, je m'en réjouis. Alors que c'était même des façons de faire pour l'attaquer, lui. Il s'en réjouissait. Et nous aussi, on peut s'en réjouir que l'Évangile est prêché. Heureusement, par des milliers d'autres croyants en France. Soyons en reconnaissants et prions pour eux et pour le message semé. Mais la parole est aussi claire. Il est libre de bénir partout. Mais il est seul, dit-il, au milieu de ceux qui sont réunis en son nom. Ce qui n'est pas la même chose de ce qu'une rencontre de chrétiens. Aux Pays-Bas, souvent, on dit, dans les périodiques chrétiens, par exemple, on décrit que comment on a rencontré dans le train un autre croyant. Et subitement, on s'est réalisé, on était deux croyants. Vraiment, Matthieu 18, verset 20. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Certainement, le Seigneur a béni cette rencontre. Mais certainement, ce n'était pas Matthieu 18, verset 20. Il le bénit. En principe, il voudrait bénir toute rencontre de croyants. Mais Matthieu 18, verset 20, c'est un caractère spécial. J'aimerais, ayant eu à regarder ces points, maintenant avancer vers un autre sujet, à savoir les diverses sortes de réunions et leur caractère qui prépareront aussi un peu le terrain pour cet après-midi, parce que je trouve que petit à petit, je viens à la limite, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, que cet après-midi, nous allons aussi un peu parler ensemble. Je sais bien que certains peuvent être un peu frappés par ça, mais ce n'est pas grave. Vous allez vous habituer. Mon père, dans les premiers séminaires où il participait, et j'ai dit qu'on va travailler en groupe, il m'a regardé comme si j'avais eu une idée qui tombait de la lune. Mais avec le temps, il a compris l'utilité. On va, en après-midi, on va travailler, pas tout le temps, rassurez-vous, mais dans des groupes pour parler un peu plus en profondeur sur un certain sujet, à savoir la direction par le Saint-Esprit. Et Je vais déjà maintenant dire pourquoi j'aimerais cela. Tout d'abord parce que quand je parle trop, vous risquez de vous endormir. Vous avez suffisamment entendu ma voix. Mais deuxièmement, vous avez trop peu entendu la voix d'autrui. Et notamment, dans plusieurs régions, peut-être aussi, ça je ne peux pas encore dire, au sud-ouest de la France, les amis se connaissent. Mais c'est rare, parfois, qu'ils se parlent franchement sur la parole. Et c'est pour cela que ce n'est pas mauvais de nous encourager à parler là-dessus. Je suis aussi assez créatif dans ce domaine. Je vous avertis déjà qu'on va mélanger frères et sœurs et tous les âges et toutes les localités. Donc ne pense pas que je vais vite prendre mes trois autres frères de Bordeaux, là, que comme ça, on est quand même dans un cercle qu'on connaît déjà. Non, on va mélanger, tout mélanger, pour que vous puissiez apprendre à vous connaître et à vous entraider dans ces domaines. Mais avant d'entrer dans ce sujet, d'abord, on va parler sur les réunions, leur caractère et quelques conséquences pratiques de cela. Ayant déjà beaucoup parlé et devant démarrer un autre PowerPoint, je propose le chant du Cantique 265. Nous lisons dans les Actes, chapitre 2. Acte 2, verset 42. Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Quand on parle, quand on veut parler de l'assemblée réunie au nom du Seigneur Jésus, et concrètement de ces réunions, c'est-à-dire de cette assemblée, alors nous devons toujours nous rappeler, quand on se rappelle du fait que l'assemblée réunie au nom du Seigneur Jésus devrait réellement se rencontrer, se rassembler, alors nous avons vu déjà hier en Matthieu 18, verset 20, qu'on le fait, le Seigneur Jésus étant au milieu. Et ça ne veut pas dire qu'il est seulement parmi eux, mais qu'il est réellement le centre. Pas seulement pour chacun de nous, mais aussi... Et nous avions vu que, en Matthieu 18, verset 20, il n'est pas dit « là où deux ou trois se rencontrent en mon nom ». Il n'est pas dit « là où deux ou trois chrétiens sont ensemble », mais « là où ils sont réunis ». Sont réunis, c'est un temps passif. Et ça implique toujours qu'il y en a quelqu'un qui les amène ensemble, qui les amène à un certain endroit. Et pas particulièrement dans un bâtiment, mais dans un lieu, ce qu'on appelle souvent le lieu du rassemblement, selon la parole. C'est là où il aimerait les réunir. Et encore une fois de plus, que ce soit dans les champs de riz en Chine, que ce soit sous le manguier en Afrique, dans un salon quelque part ou dans un joli local qui est notre propriété ou bien que nous louons, tout ça c'est complètement égal. Le Seigneur ne promet pas qu'il est là quelque part où il y a un beau bâtiment, mais là où deux ou trois sont assemblés par lui-même en son nom. Donc c'est à leur vie d'assemblée que son nom est lié, pas à leur vie privée seulement. Parce que là, il y a des millions de croyants dans le monde entier dont, heureusement, on connaît qu'ils veulent vivre pour le Seigneur, sont zélés dans l'Évangile, par exemple. Maintenant, il s'agit de la question, est-ce que leur façon de se réunir, est-ce que la nôtre est conforme à la parole? Est-ce que notre pratique durant les réunions est conforme à la parole? Et surtout donc, on ne parle pas de nos faiblesses, ou des faiblesses d'autres croyants, on parle de la question, est-ce que nous voulons respecter les principes qui sont là? Nous sommes faibles dans la pratique, et si on le constate, on doit améliorer cela. Donc, il est au milieu. Ce qui m'a touché, c'est une illustration dans l'Ancien Testament, Exode 25, verset 22, liée au tabernacle à l'époque, là où le Seigneur dit, l'Éternel dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Avec Moïse et avec le peuple. Nous pensons souvent aux réunions, dans le sens que c'est une réunion entre nous. Eh bien, le Seigneur Jésus est au milieu. Mais quand tu vois ça à la lumière d'Exode 25, ce n'est pas une réunion entre nous, frères et sœurs, c'est une réunion, une rencontre entre le Seigneur et nous, où il nous convoque et où nous serons bénis dans la mesure que nous nous réalisons la grandeur de sa personne et dans la mesure que nous réalisons ce qu'il a dit dans sa parole. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Et de temps à autre même, à la maison, j'ai constaté que vite, quand on parle, bon, on part à la réunion, ainsi de suite. Ça devient aussi un langage habituel. De temps à autre, expressément, nous rappelons aux enfants que nous y partons pour rencontrer le Seigneur. Et bien sûr, par exemple, ils disent « Ah, telle famille est de retour, tel enfant est là parce qu'ils étaient en vacances. Heureusement, ils sont là. » Et on dit, oui, c'est bon pour toi. Oui. Mais pendant toutes les semaines, là, le Seigneur était là. Il s'est rencontré avec nous. C'est là la personne d'attraction. Nous ne devrions jamais perdre ça de vue. La première pensée, ce n'est donc pas que nous, on se rencontre, si important que ce soit pour notre encouragement mutuel. Mais la première pensée, c'est que le Seigneur y est pour nous y rencontrer. Ça donne de la joie, ça donne aussi du courage lorsque peut-être tu es découragé, frustré par le comportement d'un frère, d'une sœur. Et ça arrive. Si ça n'était pas encore arrivé, soit tu es très spirituel ou jeune dans la foi, mais ça va arriver. Parce que les croyants sont toujours décevants avec le temps. Et surtout que je dois toujours me réaliser que moi-même, je suis à l'origine des déceptions pour autrui. Donc, nous sommes tous faibles, nous manquons souvent. Ce n'est pas notre perfection qui nous réunit, c'est le Seigneur. D'où tout le sérieux lorsque nous manquons au rassemblement de nous-mêmes, car c'est lui qui nous rassemble. Je rappelle ce qu'on avait vu l'autre jour, quand on parle de réunion extraordinaire pour la prière, ce qui n'est pas interdit. Mais commençons d'abord à être présents lorsqu'il y a la réunion de prière normale, habituelle. Et pas mal de croyants, pas mal d'assemblées ont le dimanche une centaine et en semaine une dizaine de frères et sœurs présents. C'est parfois, c'est souvent, malheureusement, le rythme. On avait vu en Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7, « Dis-moi, toi que mon âme aime, où tu fais paître le troupeau. » Il faut être clair, il y a des brebis du Seigneur un peu partout. J'en ai rencontré de vrais catholiques, vrais enfants de Dieu. Je me rappelle un étudiant à l'université dont on me parlait qu'il avait l'année avant que je n'entre en université eu une... les autres étudiants disaient que cet homme, il a eu la folie religieuse parce qu'il vivait dans le monde, entrait dans les bars, buvait énormément d'alcool le week-end et tout ça. Il était... excellent dans ce domaine. Et puis, subitement, il s'est converti. Et il était devenu très pieux catholique. À toute pause à l'université, il partait à la chapelle pour prier à Marie, ce que je ne comprenais évidemment pas. Mais je me rappelle, il était aussi très en souci parce que il disait que je m'endormais moi-même avec cette consolation non fondée de l'enlèvement de l'Église, alors qu'il était sûr que nous devrions passer par la grande tribulation et que nous devrions donc nous préparer à cela. Mais un jour, il m'a parlé tant de ce qu'il faisait à la chapelle et de Marie et de ce que les saints, il fallait vénérer tel et tel. Un jour, j'ai dit, mais vraiment, j'en ai assez de cette Marie et de tes saints-là. Dis-moi le jour que tu arrives à la porte du ciel, comme il parle toujours. Est-ce que tu vas entrer ou tu vas être refusé? Et sur quelle base? Il dit que j'entre, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Ça, c'est grandiose. C'est un frère en Christ. Je ne comprends pas pourquoi il restait là-dedans. Mais c'est un frère en Christ. Et il y en a pas mal comme ça. Donc, mais nous ne devons pas suivre les brebis. Nous ne devons pas suivre nos amis parmi les brebis. Nous devons avoir cette question. Seigneur, où est-ce que tu paies ton troupeau? Seigneur, où loges-tu? Pas Seigneur, où bénis-tu? Seigneur, où est-ce qu'il y a de tes brebis? Ainsi de suite. Seigneur, où loges-tu? Seigneur, quel est le lieu où tu voudrais m'avoir? C'est ça la question capitale. C'est parfois très difficile et surtout, vous savez, quand c'est très difficile, c'est quand vous avez eu des problèmes entre vous, quand il y a eu division, et après quelques années, l'un ou l'autre commence à se rendre compte que j'ai mal choisi. Et on se rend alors compte que, mais si je dois revenir, je dois être avec tel frère. Ah, mais celui-là, alors, il était beaucoup trop strict ou je ne sais pas quoi. Je ne peux pas supporter, je préfère rester où je suis. Est-ce que tu as la question? Seigneur, dis-moi où le frère X se trouve. Ou est-ce que tu as la question, Seigneur, dis-moi où tu loges, où est ton lieu de rassemblement selon la parole? Quelle est la question capitale qui m'anime, qui vous anime? Quand c'est lui qui nous rassemble, serait-ce justifié de manquer un seul rendez-vous? L'assemblée se réunit normalement plusieurs fois par semaine, mais pour de divers buts. Il persévérait dans la communion, et la doctrine des apôtres, on peut aussi traduire dans la communion des apôtres et la doctrine. Je suis cette traduction qui est aussi en irlandais. Dans la communion, dans la doctrine des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a des communautés qui persévèrent dans la communion et qui sont très chaleureux entre eux, où nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Il y en a qui persévèrent dans les prières. Et il y en a qui persévèrent, même si c'est rare dans le christianisme en général, qui persévèrent dans la fraction du pain. Parce que dans beaucoup de milieux, la Sainte Cène se célèbre une fois par trimestre, même une fois par an. J'ai même rencontré des croyants qui disent que je me suis converti il y a 3 ans, je suis dans un certain milieu, je n'ai pas encore assisté à une seule fois qu'on a célébré la Sainte Cène. C'est dommage. Il y en a aussi qui, je crois, s'en sont allés avec nous, qui ont persévéré dans la doctrine des apôtres, mais pas dans la communion. Ils maintiennent la doctrine de façon très, peut-être je dois le dire ainsi, pure, stricte, conséquente. Mais d'une telle façon qu'ils ont perdu la communion. Ce n'est pas non plus ce que la Bible nous demande. Nous devrions persévérer, pas dans l'un ou deux de ces points, mais en tout cela. La communion est ce qui caractérise toutes les réunions. On n'a pas seulement communion lorsqu'on rompt le pain. Également, si c'est bon, on est à la réunion de prière en communion. On expérimente la communion. Parce que ce n'est pas chacun qui déballe sa valise avec des requêtes à présenter devant le Seigneur, mais on prie de la part de l'Assemblée, ce qui nous occupe tous. Et on rend grâce pour les bonnes choses dont on tous est au courant. Puisque les prières, parenthèse, ne sont pas une mise au courant de l'Assemblée d'une situation. Il y a le frère Jean, à son âge de 92 ans, a été hospitalisé. Personne n'est au courant, mais toi tu l'es parce qu'on vient de te téléphoner. Bien, tu mets l'Assemblée au courant en priant pour le frère Jean qui vient d'être hospitalisé, blablabla. Ce n'est pas une info à communiquer dans la prière, c'est une info à communiquer à l'Assemblée avant la prière, pour que l'Assemblée soit au courant et qu'on puisse concrètement et collectivement prier. Sans communion, il ne peut y avoir de réelle réunion. Bon, on peut être ensemble entre quatre murs, mais est-ce que c'est automatiquement une réunion? Quand on est, selon la parole, réuni, il y a communion. Ce n'est pas, on a déjà vu ça hier, un restaurant peut être rempli, mais tu n'as pas de communion. Vous êtes ensemble dans une pièce, mais on n'a pas de communion. Par contre, quand l'Assemblée est réunie, il devrait y avoir la réelle communion. La doctrine des apôtres est la base et la norme pour tout ce qui s'y fait. Sans respect de la doctrine des apôtres, il n'y a pas de communion biblique possible. Il y a bonne relation possible, oui. Communion selon la pensée de Dieu, non. La fraction du pain est intimement liée à cela, le culte, est l'expression de la communion dans l'Assemblée sur la base de la doctrine biblique. Nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps, un seul pain. Et ce n'est pas seulement l'Assemblée locale, donc on a déjà vu ça, mais l'Assemblée universelle, tout entière. Sans fraction du pain, la doctrine des apôtres rate son but. C'est glorifier le Père et le Fils. On peut bien vouloir maintenir et la communion et la doctrine des apôtres, mais si on ne rompt pas le pain, on n'est non plus soumis à toute la doctrine des apôtres par ailleurs, qui nous encourage à la fraction du pain. Pourquoi est-ce qu'on est réunis? Ce n'est pas parce que c'est si joli de nous entretenir entre nous, c'est parce que l'Assemblée est ici-bas pour glorifier le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Les prières sont l'expression de la faiblesse et de la dépendance totale des rachetés. On peut dire sans prière, une véritable vie d'assemblée devient impossible. C'est pour cela qu'il y a une réunion de prière, mais ce n'est pas là seulement qu'on prie. Ce n'est même pas seulement au local qu'on prie, mais la prière devrait nous caractériser 7 jours par semaine. Comme aussi, par exemple, la doctrine des apôtres n'est pas seulement quelque chose à laquelle on s'attache pour le dimanche matin, mais qui nous guide à travers toute notre vie. Les réunions ont toujours deux caractères différents. Une fois, de façon toujours verticale, mais venant d'en haut jusqu'en bas, et une fois l'inverse, montant. Ça veut dire une fois quand un message de la part de Dieu vient pour nourrir, édifier, exhorter l'assemblée, et une fois quand l'assemblée s'adresse à Dieu. Le service de la prophétie, quand Dieu nous parle, selon 1 Corinthiens 14, c'est parler pour l'édification, l'exhortation et la consolation des croyants. C'est typiquement ce qui se fait en réunion d'édification. Et j'aimerais encore bien dire ceci. Remplir la réunion d'édification avec un long discours n'est pas automatiquement édifier l'assemblée. J'ai assisté à des réunions d'édification où j'ai compris que le frère pensait que la réunion est là pour qu'il s'édifie lui-même, parce que je voyais que toute la salle était endormie et personne ne captait ce qu'il était en train de dire. Et on va être très pratique tout à l'heure. Ça veut déjà dire que tu parles un langage compréhensible, ça veut dire que tu parles d'une façon qui est possible à suivre, audiblement, donc tu n'es pas un mitrailleur. Il faut que les gens puissent suivre ce que tu dis. Il faut que tu prononces bien, c'est un exercice. Il faut que parfois, quand les frères parlent, s'ils sont mariés, c'est un avantage, au moins pour moi, c'est un avantage. Mon meilleur critiqueur, c'est ma femme. Et c'est toujours utile. Ton corps est trop rapide. Tu n'as pas attendu que, par exemple, toutes les sœurs avaient déjà trouvé le passage, tu as déjà lu. Tu étais déjà prêt quand, enfin, la dernière sœur âgée avait trouvé le passage. Par exemple. Ou bien, tel et tel exemple que tu as pris comme illustration, c'était trop dur. C'était trop ceci, cela. Ou c'était trop doux, c'était incompréhensible. Bon, tout cela, en fait, même si c'est bon, si ma femme le fait, en fait, nous devrions avoir entre nous comme frères suffisamment de franchise pour nous aider entre nous aussi. L'enseignement dans la doctrine biblique, appelée en acte 2 la doctrine des apôtres, c'est aussi quand Dieu nous parle. Normalement, des dons différents sont un peu impliqués. Bon, pour l'enseignement biblique, plutôt des frères docteurs, voire qui connaissent bien la doctrine, prendront le devant sans pouvoir exclure les autres, ne serait-ce que pour des petites remarques encourageantes. Ça, c'est quand Dieu nous parle. Il y a aussi quand l'Assemblée s'adresse à Dieu dans la prière, en se déchargeant des soucis, en implorant son aide, mais aussi en lui présentant nos actions de grâce parce qu'il a opéré une guérison, par exemple, de la sœur pour laquelle on a beaucoup prié. Mais aussi en adoration. Il faut toujours nous rappeler que les réunions ont un caractère différent. Quand on fait l'amalgame, quand on fait le mélange, quand on ne sait plus est-ce que nous sommes maintenant réunis pour nous adresser à Dieu ou pour que Dieu nous s'adresse à nous, nous pouvons faire un amalgame. Par exemple, nous prions. Mais en fait, nous prions, c'est-à-dire que l'Assemblée s'adresse à Dieu, mais en fait, dans la prière, je m'adresse aux croyants. Prenons un exemple, je suis très en souci pour la mondanité qui est entrée dans l'Assemblée de Dieu en général. Au lieu d'avoir le courage d'ouvrir la parole pour en parler aux amis, je vais officiellement, n'est-ce pas, par la prière, m'adresser à Dieu. Alors qu'en fait, j'aimerais reprendre les frères et sœurs pour être si mondain. Ce n'est pas une prière. C'est abuser de la prière pour faire passer une prédication. Est-ce que tu ne peux pas prier pour la mondanité? Évidemment, tu peux, mais tu dois faire très attention pour que ça ne devienne pas une prédication. Il y a 1000 autres sujets sur lesquels tu peux aussi prêcher dans la prière au lieu de prier. Et c'est deux choses distinctes. Pas d'études au milieu de la réunion de prière. Quand on est en train de prier, tu n'as pas besoin d'utiliser de la prière pour expliquer une certaine doctrine aux frères et sœurs. tu commences la prière avec « Oh Seigneur, tu sais que combien de croyants ne savent pas que ?» Et puis vient 5 minutes de rappel de la vérité biblique que le Seigneur connaît de toute façon, n'est-ce pas ? Mais tu as peur que les amis ne la comprennent pas bien. C'est pour cela, en forme de prière, et à la fin tu dis « Amen ». Mais ce n'était pas une prière, c'était une explication de la doctrine biblique. Nous devons faire attention. Je veux d'abord dire, même ces jours-ci, j'ai entendu ceci. Nous allons dire une prière. Est-ce que dire une prière et prier, c'est la même chose? Même les musulmans disent des prières. Dire une prière et prier, ce n'est pas la même chose. Nous sommes souvent très en danger de dire des prières, de réciter des formules qui peut-être ont été prescrites, ou dans le christianisme, c'est largement répandu, par exemple, le Notre Père. Mais aussi nous, chacun de nous, je crois, a ce danger. Parce qu'on a prié depuis des années, donc on a certaines phrases, certaines tournures de phrases, certaines expressions, et avec le temps, on les dit sans réfléchir. Ça, c'est dire une prière. Mais est-ce que c'est la même chose que de persévérer dans la prière? C'est-à-dire d'une façon consciente s'adresser à Dieu, c'est différent. J'encouragerais chacun ici et chacune ici, parce que ça s'applique non seulement aux réunions, mais à la prière à table, à la prière à la maison, de ne pas dire nos prières, mais de prier. C'est une chose différente. Comme aussi on peut chanter machinalement nos cantiques sans que ça ne touche. Ou bien on peut chanter de vos cœurs, comme l'apôtre le dit, et c'est deux choses différentes. Il y a diverses sortes de prières. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Il y a diverses formes ou expressions dans la prière. Philippiens 4 nous parle de prière, de supplication avec action de grâce. Les prières, c'est l'expression très générale qui veut dire qu'on demande quelque chose à Dieu. Pas nécessairement pour soi-même, pour d'autres, pour le pays, pour les autorités, ainsi de suite. La supplication, c'est une prière, une demande avec insistance, avec urgence, faire un plaidoyer. Je dois dire que je connais des croyants qui sont exemplaires là-dedans. Ils ont dit que généralement, peut-être, nous ne sommes pas trop forts dans le domaine de la supplication. Mais il est aussi évident par la parole que ce n'est pas par nos multiples paroles que nous serons exaucés, comme les païens le pensaient. Une raison de plus pour rester simple dans nos prières et surtout en assemblée. Le Seigneur dit que les longues prières des nations, c'était parce qu'ils pensaient que plus long qu'ils priaient, plus vite qu'ils seront exaucés. Est-ce que c'est le cas aussi chez nous? Est-ce que nous osons encore dire « Seigneur, occupe-toi de la sœur Marie parce qu'elle est découragée. Amen. » Ou est-ce que nous pensons que ça, c'est quand même trop court? Et nous parlons pendant 10 minutes, et à la fin, on prie pour la sœur Marie. Et on a peut-être usé de vaines redites comme les païens. Pas de sens. Les hindous, ils ont leur mantra qu'ils peuvent réciter 100, 200 ou 1000 fois. Ils pensent que plus qu'ils répètent les mêmes phrases, plus qu'ils seront pieux. Nous ne le serons pas. Et ce qui me frappe souvent, c'est la simplicité de la foi d'Élie. Quand alors les sacrificateurs de Baal ont sauté, dansé et crié pendant des heures, enfin c'est le tour à Élie, en tout calme. En tout calme, une courte prière. Et le Seigneur répond tout de suite. En tout calme, une courte prière. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Il n'y a même aucune demande dedans. Les sœurs ne disent pas, mais Seigneur, viens alors vite pour que Lazare soit guéri. Rien. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Est-ce que nous osons être brefs dans nos prières? Dans nos réunions de prière, même dans le culte. On m'a posé une fois la question, est-ce que je peux expliquer ce que ça veut dire que pendant le culte, il faut faire le tour de l'autel? Moi, j'ai dit que ça me dépasse, je ne sais pas Je ne connais pas ce tour-là. Peut-être des frères francophones peuvent mieux t'expliquer ça. Mais ça semblait indiquer qu'il faut être très profond et je ne sais pas quoi. Mais on ne trouve pas ça dans la parole. Bien sûr que l'adoration est profonde. Mais ce n'est pas à chacun de pouvoir s'exprimer pendant 10 minutes. Et en dehors de cela, j'ai déjà dit, si nous sommes très fidèles à la parole et la plus longue prière dans la parole atteignant à peine 7 minutes, alors nous ne devrions pas être plus spirituels que la parole de Dieu, je crois. Et les frères de la première génération, comme McIntosh et autres, McIntosh a écrit une brochure sur les rayons de prière qui est très rafraîchissante, surtout quand on est déjà depuis une ou deux générations dans les assemblées. Ça va peut-être un peu nous bousculer, et ce n'est pas sans raison. Quand une fois j'ai encouragé un frère âgé de 80 quelques années qui faisait des prières de 10 ou 12 minutes, je lui ai dit, comme je sais que c'est un frère qui aime beaucoup Darby McIntosh et autres, je lui ai conseillé cette brochure. Il a dit que, ah oui, mais tu sais que même les frères de la première génération n'étaient pas parfaits. Alors, je n'aime pas cette brochure, dit-il. Voilà, et c'est ainsi qu'on peut se soustraire à la réalité. La prière en privé et la prière en assemblée sont deux choses distinctes. Et on ne peut pas faire l'amalgame. Il y a encore en 1 Timothée 2, les intercessions, c'est-à-dire prier en faveur de quelqu'un d'autre, entre autres pour les hauts placés, pour les autorités, pour tous les hommes même, est-il dit là. Lorsque Dieu a répondu, on lui remercie, on rend grâce, c'est les actions de grâce. Malheureusement, nous oublions cela souvent, nous pouvons à la maison, comme en assemblée pendant des mois, prier pour le cas de telle sœur, de tel frère, avec persévérance. Quand alors la réponse vient, nous risquons souvent d'oublier de dire merci au Seigneur. Et sa façon de répondre n'est pas toujours identique à notre façon de vouloir, comme c'était en Jean 11, n'est-ce pas? Les sœurs voulaient dire, Seigneur, viens vite. Il n'est pas venu vite. Il avait un meilleur plan. Et à la fin, Lazare était vivant comme consolation pour les sœurs. Mais la gloire du Fils de Dieu avait été manifestée d'une façon éclatante. Et en plus, à la suite, ça a parlé au cœur même des Juifs. Parce qu'ensuite, Jean 12, tu trouves que la parole parle de Lazare le mort, alors qu'il était vivant. Pour rappeler que Lazare avait été mort, mais avait été ensuite ressuscité. Et il était un témoignage vivant de la gloire et de la puissance du Seigneur. Il n'y a jamais une raison pour ne pas remercier ou rendre grâce. Nous ne devrions pas oublier cela. Quand on s'adresse à Dieu, pas pour des supplications et des demandes, par contre, pour la louange et l'adoration, nous devrions nous rendre compte qu'il y a la différence. Les actions de grâce ont leur place aussi dans le culte. C'est remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais si ça se limite à cela, c'est un peu maigre. Surtout quand je me limite à ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi il y a aussi la louange qui devrait avoir la place. La louange, c'est quoi? C'est le fait de célébrer et exalter surtout les œuvres, les actes de majesté et de magnificence de Dieu. Par exemple, dans la création, tu trouves ça de multiples fois dans les psaumes. Louons l'Éternel. Même Alléluia veut dire louer Jah, c'est-à-dire l'Éternel. Alors, et on peut aussi louer le Seigneur pour son œuvre rédemptrice à la croix. Adorer, ça va un pas plus loin. Ce n'est pas les actions de grâce, ce n'est pas louer l'œuvre, mais c'est exalter la personne. Et nous devrions comprendre qu'il y a différence là-dedans et que ce que le Père cherche, ce n'est pas seulement les remerciements et la louange, mais c'est l'adoration. On va voir ça tout à l'heure en Jean 4. Le Seigneur dit, l'heure vient et elle est maintenant. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. L'heure vient et elle est maintenant. Mais c'est bizarre. L'heure vient et elle est maintenant. Pourquoi est-ce que cette heure allait venir? Non, pourquoi est-ce que cette heure était déjà là? C'est parce que dans ce même chapitre, le Seigneur parle de l'Esprit. Et l'Esprit allait venir pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Le Père était déjà révélé, ce qui n'était pas dans l'Ancien Testament. Nous lisons en Jean 1, verset 18, que le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Et le Fils lui-même était venu sur la terre. C'est les trois éléments caractéristiques, on peut dire, pour la dispensation dans laquelle nous vivons. La révélation du Père par le Fils et le Saint-Esprit qui opère l'adoration. Les trois étaient là. Ce qui n'était pas encore là, c'était les adorateurs en esprit, en vérité. Ça allait bientôt venir, à savoir à partir, on peut concrètement dire, à partir d'acte 2, quand l'Esprit est descendu sur la terre. J'aurais encore aimé parler plus là-dessus, on va le faire, mais après la pause, parce qu'aujourd'hui nous devons être très stricts avec l'heure. On a déjà pratiquement midi. Nous allons donc continuer ce sujet brièvement après la pause, avant d'autres choses, comme j'ai déjà un peu annoncé. Le Père en cherche de tels qui l'adorent. Soyons des adorateurs.